Les entretiens d'Accent 4.
Bonjour François Dumont.
Bonjour Olivier.
Vous êtes un jeune pianiste concertiste, lauréat des concours Clara Askill, Reine Elisabeth Chopin de Varsovie. Vous avez fait vos études à Lyon avec Hervé Billot, Pascal Imbert et Christelle Sossac, puis au CNSM de Paris, dans la classe de Bruno Rigouteau. Vous avez également reçu les conseils de quelques grands noms du piano, je cite Léon Fleischer, Andreas Steyer, Menahem Pressler, Futsong ou Murray Peraya. Au disque, vous revenez à Chopin avec une intégrale des nocturnes enregistrée pour le label Avea Classique. Quelle place Chopin occupe-t-il dans votre parcours d'interprète ?
Je dirais que c'est une place vraiment centrale, depuis très longtemps d'ailleurs, depuis de nombreuses années, bien avant le concours Chopin. Je pense que c'est un compositeur qui m'a toujours vraiment passionné. Il y a un mystère qui entoure ses œuvres aussi. Évidemment, Chopin a été abondant dans son écriture pour piano, mais on n'a pas non plus une production qui peut être comparable en volume aux 32 sonates de Beethoven ou à Liszt. Vous voyez, on retourne finalement toujours un petit peu vers les mêmes œuvres. Donc il y a des nocturnes que je joue depuis que j'ai 7 ans, puis d'autres que j'ai appris plus récemment. Mais enfin, on retourne toujours à Chopin. Il y a un grand mystère dans cette œuvre, une grande pureté aussi. Et l'interprétation de Chopin demande un grand équilibre, un grand sens des proportions, je dirais un équilibre entre ce qui est passionné, ce qui est impétueux et ce qui est vraiment de l'ordre de l'intuition, de l'intuitif, et puis l'équilibre avec l'harmonie, avec la construction, avec aussi tout ce qui vient du langage plus classique, voilà l'équilibre entre le rubato de la main droite, pour simplifier, et puis la conduite de la main gauche. Voilà, et ça c'est quelque chose il n'y a pas vraiment de perfection là-dedans, et c'est pas quelque chose qu'on peut graver dans le marbre, mais donc c'est presque obsessionnel.
Vous avez d'ailleurs employé quelques termes que l'on va un petit peu développer dans le cours de cet entretien. J'ai cité quelques grands noms du piano qui vous ont sans doute apporté quelque chose dans votre appréhension de l'œuvre de Chopin, et je pense notamment à Bruno Rigouteau et à Futsong.
Oui, oui, absolument. Ce sont deux grands chopiniens. Bruno Rigouteau lui-même, qui a enregistré beaucoup Chopin, qui le joue beaucoup, qui a vraiment ça dans son âme, qui tient aussi cette tradition de Sanson François, puisque c'était un des rares disciples de Sanson François, qui était lui-même élève de Cortot. Donc il y a quand même une tradition là qui existe, une tradition d'interprétation chopinienne qu'on peut qualifier d'école française dans la manière de jouer Chopin. Et puis il y a l'autre côté, Futsong, qui lui a étudié en Pologne, qui est un immense interprète de Chopin, qui m'a énormément apporté. Il y a toute une tradition de jouer Chopin là-bas. Lui-même a une compréhension qui est bien au-delà de cette tradition polonaise, puisque Futsong c'est quelqu'un qui est extrêmement personnel, enfin ses interprétations sont absolument inimitables, on peut pas, et d'ailleurs il ne faut pas imiter, et je crois comme tous les grands artistes qu'on vient de citer, tout ça sont plutôt des inspirations ou des manières de faire qui peuvent vous interpeller, mais c'est pas vraiment un modèle qu'on va imiter, si vous voulez. C'est un modèle dont on peut s'inspirer, mais qu'il ne faut surtout pas imiter, puisque on ne peut pas reproduire en art, et encore moins avec Chopin, puisqu'il faut être avant tout très sincère.
Alors François, vous êtes aussi un amateur de voix, et cette connaissance de l'art du chant, de ce cantabile, est-elle nécessaire pour appréhender l'univers de Chopin, et plus particulièrement celui des 21 nocturnes ?
J'en suis profondément convaincu. Je pense vraiment que c'est très important d'avoir ce chant, cette beauté du chant, ce bel canto dans l'oreille. Chopin lui-même disait à ses élèves, si vous voulez jouer du piano, il vous faut avant tout chanter. C'était d'une manière métaphorique, bien sûr, mais on connaît son amitié avec Bellini, et je crois l'italianisme de Chopin est présent dans tout son œuvre, dans tous les mouvements lents, par exemple les mouvements lents des concertos, ce sont de magnifiques arias pour piano seul, et les nocturnes, plus précisément, sont en effet une transposition de ce bel canto idéalisé, ce bel canto qui vient de Bellini, qui vient de Rossini aussi. Chopin, en tout cas, était féru de culture italienne. Il ne faut pas se méprendre, c'est très difficile de chanter vraiment un nocturne. Il y a eu des transcriptions de faites pour voix de certaines de ses œuvres, des mazurkas, Pauline Giardot notamment, qui connaissait Chopin, a transcrit plusieurs de ses mazurkas. C'est pas forcément très concluant parce que c'est un chant qui est idéalisé et qui est adapté au piano. Mais en tout cas, c'est le but suprême. Et moi, cette proximité avec la voix est très importante. Je dirais la recherche de la beauté du timbre, la recherche de la continuité et de la longueur de la ligne, si vous voulez, une ligne infinie. Et puis le phrasé, une certaine grâce dans le phrasé. Et ça, il y a un enseignement quand même, une tradition qu'on peut apprendre de Maria Callas, aussi des grands ténors, des grands de la Tebaldi. Enfin, vous écoutez cet univers du bel canto, je pense que ça ne peut être qu'inspirant quand vous jouez Chopin.
Est-ce qu'on pourrait penser aussi, alors là on ne va pas parler de bel canto, mais est-ce qu'on pourrait penser aussi à Mozart?
Oui, de toute façon, Chopin avait quand même plusieurs références. L'univers de Chopin est très particulier parce que lui-même était très peu bavard concernant les influences ou les choses, ou même ses goûts musicaux. On ne sait pas énormément, mais on sait qu'il vénérait avant tout Bach et Mozart. Ça, c'est absolument sûr. Bach, de toute manière, c'est manifeste dans ses œuvres, puisque dès le début, vous pensez aux études, bon, c'est tout à fait comparable et on sent que le clavier tempéré a été digéré et on retrouve ça dans les préludes aussi puisqu'on a cette tonalité qui est parcourue et Bach est très 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 présent même dans les dernières œuvres, encore plus peut-être dans les dernières œuvres quand je pense au Nocturne opus 62, on a tout d'un coup ces polyphonies très très denses qu'on retrouve dans la troisième sonate aussi, ce chromatisme aussi omniprésent. Mozart, également très très présent. On dit que Chopin faisait travailler à ses élèves du Bach, mais pas tellement du Mozart. Je pense que le pianisme est très différent, mais néanmoins le sens vocal est tout de même omniprésent chez Mozart et on le retrouve chez Chopin. Et c'est avant tout, plutôt, je dirais, une continuité d'âme, une continuité d'élégance spirituelle, d'élégance de sentiment. Et c'est là que Mozart a vraiment, je crois, pu déteindre sur Chopin. Où vous avez ce sentiment qu'il n'y a pas une note de trop, il n'y a pas une faute de goût, vous voulez, tout est fait dans la plus grande élégance, dans la plus grande noblesse. Et cet esprit très particulier mozartien, cette grâce mozartienne, je crois que c'était quelque chose de très important pour Chopin.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de pureté, de musique pure. Vous connaissez sans doute les notes sur Chopin d'André Gide. Il pensait que la musique de Chopin était une musique pure, la plus pure, car elle propose, suppose, insinue, séduit, persuade, n'affirme presque jamais. Vous êtes d'accord ?
Oui, c'est magnifique. Je suis d'ailleurs toujours très impressionné et très inspiré par ce que Gide a pu écrire sur la musique. C'est quelque chose de tout à fait vrai. Il y a cette pureté, il y a cette clarté et il y a aussi une économie de moyens. Chez Chopin, vous n'avez jamais une note de trop. Et aussi chez Chopin, il y a quand même, en tout cas pureté c'est sûr, mais on n'est jamais sucré chez Chopin. Vous voyez, on n'est jamais sentimental. Chopin peut même être, il peut y avoir une certaine amertume chez Chopin. Comme disait Liszt, un poison vénéneux de la révolte, de la mélancolie. Et donc on a ça chez Chopin. On a une pureté de la forme, on a une pureté de sentiment, mais on a aussi cette grande, un côté qui peut être âcre. Vous voyez, une grande nostalgie, et ça aussi, c'est un aspect très important qu'on retrouve dans tout son œuvre. Et je pense que c'est un malentendu qui a pu souvent être fait chez Chopin. On pense que c'est une musique un petit peu, ce cliché, cette image d'Épinal d'un musicien qui joue dans les salons, une musique un petit peu à l'eau de rose. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est encore un petit peu, qui est encore dans l'imaginaire un petit peu de certains mélomanes ou même de certaines personnes qui disent « Vous savez, moi j'aime pas beaucoup Chopin, je préfère la musique beaucoup plus forte. » Mais Chopin est très fort, Chopin est très intense, Chopin n'est jamais mièvre. Voilà, et donc là, quand on dit pureté, on a cette pureté, on a un certain classicisme en fait, et un grand romantisme de sentiment.
Et d'ailleurs, l'un des premiers interprètes modernes de Chopin, c'était Arthur Rubinstein.
Oui, 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 tout à fait. Qui a fait scandale à l'époque parce que justement, il a quand même débarrassé Chopin de toute cette, je dirais, de toutes ces exagérations romantiques qui étaient représentées d'après Rubinstein par Paderewski. Voilà. Et donc lui proposait quelque chose de radicalement différent, de plus épuré, qu'on a considéré comme très froid à l'époque. Mais Enfin, les modes d'interprétation, c'est quelque chose d'assez étrange, parce que, évidemment, on a le disque qui témoigne, mais quand vous écoutez quand même quelqu'un comme Cortot, qui est, bon, c'est des, certains disques ont plus d'un siècle maintenant, certains de ses enregistrements, et néanmoins, il est quand même tout à fait moderne. Et même chez Cortot, il y a quand même des choses qu'on n'ose plus faire aujourd'hui, des choses d'une grande subjectivité, mais une subjectivité qui naît de l'absorption totale de cette œuvre. C'est pas une subjectivité qui, en tant que telle, où il se dit « je vais faire original, je vais faire quelque chose que personne d'autre ne fait ». Je dirais que c'est plutôt qu'il s'est totalement immergé dans l'œuvre, ou peut-être qu'il s'est fait lui-même absorber par cette œuvre. C'est toujours le paradoxe de l'interprète. On essaye de se fondre dans l'œuvre, mais savoir si c'est si on digère l'œuvre ou si c'est l'œuvre qui nous digère.
On revient à André Gide. Il pensait qu'il y avait une manière française de jouer Chopin, un piano droit. Est-ce que vous partagez cette conception ? J'ai envie de dire que, en écoutant votre disque, on a quand même une réponse.
Écoutez, moi, je ne sais pas si je peux m'inclure vraiment dans ce qu'on appelle l'école française, parce que je pense que la notion d'école aujourd'hui a beaucoup évolué. Le monde lui-même est totalement globalisé, internationalisé. On a beaucoup plus d'échanges qu'avant. Et donc, ce qui était vrai avant, vous reconnaissiez, même il y a peut-être 40 ans, on reconnaissait ou 30 ans, un pianiste russe, d'un pianiste français, d'un pianiste allemand et d'un pianiste américain, où vous aviez des caractéristiques quand même assez marquées, ce qui était vrai des orchestres aussi. Je pense que ça est bien moins vrai aujourd'hui. Néanmoins, je pense qu'on est profondément influencé par notre propre culture, par le monde dans lequel vous vivez, et tout simplement aussi par la langue que vous parlez. Ça, je crois vraiment là-dedans. Ça a été étudié aussi que... Il y a eu des études assez poussées, presque scientifiques, qui prouvaient que l'idiome français était présent dans l'écriture de Chopin. C'était pas seulement, peut-être que le sentiment était polonais, mais au moins la construction de la phrase, l'esprit français, l'esprit de digression, par exemple, était assez présent dans l'œuvre de Chopin. Bon, sans aller trop loin et sans partir dans des considérations qui seraient peut-être trop éloignées de notre sujet, je pense quand même que l'école française existe. Je ne sais pas si j'en suis un des représentants. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Pologne, on m'a souvent posé la question, parce qu'il y a cette dualité chez Chopin. Lui-même, son père était quand même, Nicolas Chopin était d'origine française. On a les deux, son nom, Chopin est français, et néanmoins, il était polonais avant tout. En Pologne, on m'a demandé, alors d'après vous, Chopin est-il français ou est-il polonais ? Et c'était une question omniprésente. Et moi, j'ai répondu, et on revient au début de notre interview, moi j'ai répondu, vous savez, avant tout, Chopin est italien.
Oui, c'est pas faux du tout. D'ailleurs, je crois que les origines étaient même lorraines du père de Chopin,
oui.
Du côté de Charmes, je crois. Voilà, voilà. Les nocturnes de Chopin l'ont occupé tout au long de sa vie. Il a même donné ses lettres de noblesse au genre. Même si l'idée d'un cycle n'est peut-être pas présente, est-ce qu'on peut s'en faire une idée lorsqu'on décide d'enregistrer, de graver pour le disque les 21 nocturnes ?
Oui, vous avez tout à fait raison de souligner qu'il ne s'agit pas d'un cycle voulu par Chopin, comme on peut parler d'un cycle pour les études, pour les préludes notamment. Voilà, les nocturnes ont été composées tout au long de sa vie. Vous avez les tout premiers nocturnes jusqu'au dernier. Bon, même si c'est une courte vie, on a quand même vraiment un panorama de l'évolution de son style. Et donc on peut s'amuser à former un cycle imaginaire de ces nocturnes, même si je les ai donnés moi-même en concert plusieurs fois, j'ai toujours alterné certains nocturnes, certaines époques, je les ai jamais joués de manière chronologique, voilà, même s'il y a certains opus qu'on peut, qui est difficile de séparer parce qu'ils ont été conçus eux-mêmes comme un mini-cycle, par exemple l'opus 9, vous avez ces trois nocturnes de l'opus 9, le premier opus donc, qui s'enchaînent. Chopin a vraiment pensé les tonalités, pensé les atmosphères, et donc ça serait dommage de les dépareiller. Voilà, en tout cas c'est un cycle imaginaire qui vous donne aussi une idée de l'évolution du style et de l'évolution de la personne de Chopin, de son évolution personnelle, parce que Chopin se livre dans les nocturnes peut-être le plus profondément. C'est peut-être l'œuvre la plus intime de Chopin, avec les mazurkas, mais les mazurkas sont très très brèves et c'est un langage stylisé, inspiré donc de la musique populaire, mais d'une musique populaire idéalisée. Les nocturnes, j'entends vraiment Chopin, je sens vraiment Chopin qui nous parle, qui se livre. Parce que Chopin n'est pas quelqu'un qui se livre naturellement, et même c'est pas quelqu'un qui aimait jouer en concert. Il a donné très peu de concerts finalement. Il aimait jouer seulement entre amis, le soir, dans certains salons, lorsqu'il se sentait en confiance. Et j'entends cette confidence cette confidence aussi liée à la nuit, liée, on écoute différemment dans la nuit, on a un silence différent, et donc je pense que ce ton, ce secret est très important dans les nocturnes, et je pense que c'est vraiment un trésor qui nous a livré là.
Avant-dernière question, vous en avez parlé au début de l'entretien, c'est le rubato. Comment pourriez-vous définir le rubato chopinien ?
C'est une notion fondamentale, vous avez bien raison de le souligner. Rubato, donc pour nos auditeurs qui peut-être ne sont pas forcément musiciens, le rubato vient de l'italien, c'est dérobé, c'est le temps dérobé. Ça veut dire qu'on ne va pas suivre la mesure de manière absolument droite. On va prendre un petit peu de temps à un endroit et peut-être le rendre à un autre endroit. Il y a une flexibilité du tempo. Le rubato chopinien, pour moi, vient avant tout, on revient à l'italianisme, bel canto vient avant tout de la voix. Je pense que quand même, vous essayez de chanter un petit fragment mélodique de Chopin, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un petit peu de temps pour certains intervalles, pour vous monter dans l'aigu, et bien la note du... Pour monter dans l'aigu, l'intervalle demande un certain effort, demande un petit peu d'espace. C'est infime, et c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment calculer, mais ça fait toute la différence. Le rubato chopinien, c'est quelque chose d'assez particulier. Apparemment, Chopin, d'après les dires et même les descriptions que Liszt notamment a pu en donner, c'était quelque chose d'inimitable, de très particulier. C'était comme un accent. C'est comme quelqu'un qui vous parle avec un accent, qui vous parlerait avec un accent polonais, assez marqué, mais avec un charme néanmoins tout à fait présent. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas jouer Chopin sans rubato. On ne peut pas jouer Chopin de manière droite. C'est d'autant plus vrai dans les mouvements lents des concertos, où vraiment, si vous avez un chef d'orchestre qui bat la mesure de manière absolument régulière, vous n'avez tout simplement pas le temps de jouer toutes ces fioritures, toutes ces arabesques. Après, la particularité du rubato chopinien, c'est que ce n'est pas un rubato qui est laissé complètement à la dérive. Vous avez cette main gauche qui reste le maître de chapelle, qui reste régulière. Et donc, il y a tout un compromis, tout un équilibre à trouver, on en revient là. Ceci dit, ce n'est pas nouveau. Mozart, déjà dans ses lettres, décrit que certains auditeurs n'arrivaient pas à comprendre comment ils pouvaient garder la mesure à la main gauche tout en étant libre à la main droite. Et néanmoins, il ne s'agit pas de ne pas jouer les mains ensemble, mais il y a un secret là, il y a une flexibilité sonore, et je crois que c'est là qu'est toute la créativité de l'interprète, et c'est là aussi ce qui fait que c'est très particulier de jouer, parce que vous ne jouez jamais deux fois de la même manière, même si vous avez joué, vous faites une tournée avec 5 concerts à 5 jours d'affilée avec les mêmes œuvres, et bien ça ne sera jamais la même chose, parce que le rubato aussi dépend très particulièrement de l'auditeur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe au moment, ça c'est lié à l'improvisation, ça se passe sur le moment, c'est lié à la manière dont vous êtes reçu aussi, dont vous êtes écouté, c'est quelque chose de hautement émotionnel. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, un secret là, qui est fondamental chez Chopin, et ça vient aussi de l'observation du texte. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que vous pouvez calculer, c'est quelque chose qui doit être avant tout ressenti.
Et avec l'Orchestre de Bretagne, vous avez entrepris une intégrale des concertos pour piano de Mozart que vous dirigez depuis le clavier. Est-ce que vous seriez tenté, comme Christian Zimmermann, de jouer et de diriger l'orchestre pour les deux concertos de Chopin ?
Écoutez, c'est une bonne question. C'est quelque chose d'assez tentant, en effet, parce que Zimmermann l'a fait magnifiquement. Après, ce qui est un petit peu différent, vous voyez, c'est que les concertos de Mozart ont été vraiment écrits et créés de cette manière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chef d'orchestre du temps de Mozart, c'est pas quelque chose qui existait. Les musiciens jouaient un concerto dans le sens du dialogue, concerta en italien, donc c'était le pianiste, l'instrument soliste qui dialoguait avec, si vous voulez, l'individu, qui dialoguait avec la société, et donc la société était représentée par l'orchestre, ça vient du concerto baroque. Vous avez ces dialogues avec certains groupes d'instruments, notamment les bois, les vents, et puis les cordes, bien sûr, mais bon, vous avez vraiment ce dialogue constamment interactif entre certains instruments de l'orchestre et le piano, et donc ça a vraiment un sens pour moi de ne pas avoir un intermédiaire supplémentaire, un chef d'orchestre, même si ça peut être très commode et que j'ai rien contre ça, et que je le fais aussi régulièrement avec d'autres orchestres, et même avec l'Orchestre de Bretagne, j'ai joué aussi avec eux, avec chef d'orchestre, mais là c'est vraiment une aventure, et c'est né aussi de cette complicité avec ces musiciens, l'OSB, qui j'ai souvent fait de la musique de chambre, donc ça a vraiment un sens. Chopin aussi s'est tentant, néanmoins ça demande un orchestre qui soit très autonome et qui ait justement une très grande connaissance du texte, parce que c'est très difficile à suivre vraiment et à bien accompagner les concertos de Chopin notamment. Il y a aussi les autres œuvres qu'on joue beaucoup moins et que je joue à Metz le 6 avril d'ailleurs, le Cracoviac, le rondo à la Cracoviac et l'endance pianette grande polonaise, où là on a un accompagnement très réduit et quand même beaucoup plus rythmique. Dans les concertos, c'est presque de l'opéra, vous voyez, et c'est là qu'un chef peut être quand même très utile, et est la plupart du temps très utile, parce que il vous faut cette flexibilité de l'opéra, et quand vous avez quand même 60 musiciens ou 80 musiciens, et ben c'est quand même, pour des raisons pratiques, beaucoup plus commode. Mais enfin, je dis pas complètement non, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire avec un orchestre réduit. Je l'ai fait il y a deux ans, je crois, oui, il y a deux ans, l'été 2016, avec l'orchestre Franz Liszt de Budapest, qui est un orchestre exclusivement de cordes, donc c'était une transcription, et là on n'avait pas de chef, vous voyez. Donc c'est faisable, je pense que ça dépend vraiment de la formation et de l'orchestre.
Bien, merci beaucoup François Dumont, et je rappelle la sortie de cette belle intégrale des 21 nocturnes de Chopin pour le label AVA Classique.
Merci à vous Olivier, au revoir.